Entre nous soit dit, Lydia Gabor.
Bonjour à vous. Au cœur de la cité médiévale de Gruyère, le Tibet Museum nous invite à découvrir sa collection d'art sacré tibétain, mais pas seulement, parce que jusqu'au 19 octobre, prolongé, paraît-il, jusqu'au 24, peut-être plus, notre invité, artiste peintre, expose 12 toiles inspirées de ces objets rituels de l'Himalaya. Bonjour Pavlina.
Bonjour madame.
De votre vrai nom, Pavlina Borochova.
Oui, c'est vrai, c'est mon nom de naissance.
Comment s'est faite la rencontre avec le musée tibétain de Gruyère?
Alors, c'est une belle coïncidence. J'avais rendez-vous avec Guy Corneau à Vevey. Et puis, c'est la responsable médiatique du Tibet Museum qui l'a amené. Puisque, bon, lui, il prend tout le temps le train pour se déplacer.
Guy Corneau, donc le psychologue, psychanalyste qu'on connaît sur nos ondes.
Oui, voilà, exactement, qui a sorti le livre Revivre qui a beaucoup de succès. Et puis, avec la responsable, Madame Fass, j'avais tout de suite un très beau feeling, on discutait. Et puis, elle me pose la question, mais qu'est-ce que vous faites de la vie? Et je lui ai dit, je suis artiste peintre de profession. Et puis, en regardant mes œuvres sur le site, ça lui a plu. Elle a contacté monsieur Alain Bordier, donc le fondateur du Tibet Museum. Et puis, j'avais la chance, ça lui plaît aussi.
Et vous êtes la première artiste, en fait, qui expose dans ce musée, qui est un musée d'art tibétain, on l'a dit, d'art bouddhique, qui est presque un temple, on a envie de dire. Mmh. Et vous êtes la première artiste à qui on a ouvert les portes de ce musée pour qu'elle expose ses œuvres. C'est assez impressionnant, non?
Oui, c'est vrai, en fait, je ne le savais même pas que je suis la première artiste contemporaine qui est invitée d'exposer dans ce lieu. Et pour moi, c'est un grand honneur et une très grande joie parce que l'art sacré qui est présenté au Tibet Museum est pour moi vraiment la base de l'art, le cœur de l'art. Et puis de pouvoir plonger dans cette atmosphère, c'est très précieux. Et j'avais l'occasion de découvrir le Tibet Museum il y a 3 années. J'ai vu une petite publicité dans un magazine d'art. Et ça m'a tout de suite beaucoup intriguée, puisque c'est à Gruyère. Hein. En le découvrant il y a 3 ans, ça m'a déjà beaucoup touchée. J'avais envie, en fait, de passer des heures et des heures de ce musée. Je suis tombée amoureuse littéralement de ce musée.
Pavlina, vous exposez 12 toiles. On peut dire que ces toiles sont un peu en résonance avec les objets du musée, des objets asiatiques, des objets qui appartiennent à la culture tibétaine, de l'Himalaya. Comment vous avez travaillé? Est-ce que vous êtes allé observer des pièces? Vous avez fait des photos? Vous avez fait des copies? Comment pratiquement vous avez travaillé?
Alors, j'ai travaillé sur plusieurs plans. Donc, d'une part, je n'étais pas obligée, personne ne m'a dit, Pavlina, si tu exposes ici, tu dois t'inspirer de cela.
C'est vous qui avez fait ce choix.
C'était mon choix, c'était mon désir, je dirais même. Parce que je ne me voyais pas venir dans cette atmosphère sacrée et précieuse avec un travail qui est uniquement basé sur ma personne. Je trouvais que c'était pas digne
du musée,
voilà,
de la rencontre.
Oui, et de la rencontre. Donc, j'ai senti le besoin de m'intégrer dans l'art sacré. Et comme il y a plusieurs sculptures qui me parlent particulièrement dans le musée, je me suis dit, tiens, mais c'est l'occasion de dessiner certaines sculptures qui sont du 12e, 16e siècle et de les rendre vivantes. Donc, une petite sculpture, par exemple, qui fait 25 ou 29 centimètres de haut. Et évidemment, par nature, c'est quelque chose de statique, hein, très compact. J'avais envie de lui donner cette légèreté en interprétant un corps grandeur nature. Donc, on voit des dessins, des corps physiques de la sculpture inspirés de grandeur nature qui se double, qui présente également un corps éthérique. Donc, j'ai amené un certain mouvement en dessin par rapport à la sculpture qui, elle, est beaucoup plus statique, solide, voilà,
oui.
C'est ça.
Alors, il y a l'affiche qu'on a pu voir aussi à Lausanne parfois d'une tête de Bouddha, très très belle, mais qu'on voit comme réverbérée, en fait. On la voit plusieurs fois dessinée, comme un écho.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, c'est comme un écho. Et en fait, j'avais l'idée que depuis le haut, il y a une sorte d'énergie universelle qui descend. Bon, de toute façon, pour moi, ça existe. Hein.
C'est pas besoin de rire.
Voilà,
on,
c'est ça.
On le croit aussi, hein, oui.
Donc, voilà, ce qu'on appelle l'énergie universelle, l'énergie de l'univers. Certains l'appellent Dieu. Chacun a un autre mot pour tout cela. Donc, ça présente une sorte d'énergie divine qui se manifeste, qui se matérialise petit à petit. Et pour moi, c'était comme le dévoilement d'une naissance du dessin. Ça veut dire, d'abord, on voit presque rien, on voit juste une petite silhouette. Ensuite, on voit un deuxième corps qui est déjà moitié présent, moitié éthérique. Et le troisième corps qui est vraiment présent, autant qu'être humain, mais basé sur la sculpture.
Alors ça, c'est une partie.
Donc c'est une réelle naissance.
C'est une
part.
Réelle naissance. Et ouais. C'est ce qui est très beau, c'est justement ce côté vivant que ces statues reprennent dans
c'est
le dessin.
Pour
c'est
moi.
Très important.
Ouais.
Et il y a d'autres statues plus simples. Ce sont des visages d'enfants, des visages de jeunes filles, très grands aussi. Et l'une s'appelle Asie, et l'autre Europa. Il y avait l'idée de créer un lien entre l'Asie et l'Europe, justement, dans ce musée tibétain de Gruyère.
Oui, alors, effectivement, et c'est magnifique parce que j'ai proposé ce thème à Monsieur Bordier, et puis il m'a dit, mais Pavlina, ça c'est aussi tout à fait mon thème, donc ça tombe bien. Et donc, Europa, c'est un portrait d'une fille qui fait 1 sur 1 mètre. On voit vraiment le visage qui est centré sur 80 centimètres de haut. Et l'autre dessin qui présente Asia, hein, en anglais, qui a exactement la même dimension pour que ça soit en équilibre et qui a également la même couleur pour trouver vraiment une balance.
Hein. Oui, un équilibre entre ces deux univers.
Un équilibre entre ces deux aspects. Et dans les yeux du portrait de la fille, on voit dans l'œil droit, on voit le haut plateau du Tibet, et dans l'œil gauche, je me suis amusée de dessiner la silhouette de la Suisse, mais uniquement les personnes qui prennent le temps
voient ça,
le voient. Oui. Et c'est cela aussi qui m'a motivée. Je me suis dit, j'ai envie de laisser découvrir encore quelque chose de plus subtil pour ceux qui prennent le temps et qui sont passionnés, qui en regardent. Donc, j'ai besoin de m'exprimer sur plusieurs plans, comme s'il y avait plusieurs transparences, parce que dans la vie, il y a plusieurs transparences, et comme une superposition de plusieurs réalités également.
Alors, vous vous exprimez sur plusieurs plans, parce qu'en même temps que cette exposition du musée tibétain à Gruyère, vous exposez en même temps à Genève, au Genève Art Space. Donc, c'est une très grande salle au Port-Franc. Et là, ce sont des œuvres tout à fait différentes. C'est-à-dire plus rien à voir avec le petit musée intime tibétain. Ce sont des œuvres très, très grande, d'après ce que vous m'avez dit.
Oui, c'est exact. Donc, cet espace d'art, Geneva Art Space, qui se trouve au Port-Franc de Genève, il fait 400 mètres carrés. Et puis, c'est un projet qui m'était proposé déjà il y a 2 années. C'était quelque chose qui était beaucoup en réflexion. Et au début, il y avait quelque chose qui était prévu avec des sculptures avec Igor Ustinov. Et par la suite, je me suis dit, ça n'a pas joué au niveau de l'organisation et du timing. Et ensuite, je me suis dit, en fait, ça serait l'occasion de partager cet immense espace avec un peintre pour qui j'ai beaucoup d'estime.
Jacques Walter.
Et nous sommes très complémentaires parce qu'il est vraiment très abstrait. Et moi, en étant plus figuratif, c'est un très beau partage. Et comme chacun de nous a 200 mètres carrés à disposition, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. Ah oui, en plus, un plafond de 4,5 mètres, hein, c'est vraiment rarissime.
On peut aller en hauteur aussi.
Oui, et c'est très, très rare d'avoir l'occasion d'avoir un tel espace. D'après ce que je sais, il n'y a aucun espace de 400 mètres carrés avec autant de hauteur. Et je me suis dit, là, je peux m'éclater.
Alors justement, votre plus grande toile, c'est combien?
Alors, la plus grande, elle fait 3 sur 3 mètres.
C'est quelque chose.
Oui, ça, c'est très sympa, j'adore. Hein.
Si je voulais,
je ferais que des grands. Que
vous
des
l'avez
grands.
Rempli avec quoi?
Alors, il y a 8 grands formats qui fait. Ils font, les autres 8 grands formats, ils font tous 1,80 m de haut. Et avec des largeurs très différentes, entre 1,30 m, 1,15 m le plus petit, et 2,30 m le plus large. Donc 1,80 m de haut jusqu'à 2,30 m de
très
plus
grand,
large.
Je...
C'est très grand et ça serait
c'est un mur. C'est un mur.
Oui, voilà, c'est un mur. Mm-hmm. Et puis là, j'aurais même envie de faire appel à des entreprises s'ils ont envie de valoriser leur bâtiment ou un mur. Ça serait vraiment l'occasion d'amener quelque chose de culturel de niveau.
D'accord. Pavlina, donc, artiste peintre, vous êtes notre invitée jusqu'à 15h. Vous signez un ouvrage album aux éditions du Tricorne où on peut découvrir vraiment toutes vos œuvres depuis à peu près 20 ans que vous êtes dans le métier. On va dérouler votre parcours tout au long de cette heure. Une première chanson dans l'émission. Eh bien, vous êtes sur la première. Bienvenue à vous.
Je te salue, Seigneur, du fond de l'inutile, à travers la tendresse de mes cauchemars d'enfant, le calme des espoirs, de mon bonheur tranquille, et la sérénité de mon joyeux néant. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir, pendant que mes ennemis amnistient leur conscience, que mes anciens amis font tomber leur sentence. Les citoyens frigides tremblent dans leur cervelle quand les clochards lucides retournent à leur poubelle. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première. Oui, je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la première beauté vierge tombée des cieux. Oui, je m'en vais ce soir. Je te salue, Seigneur, du fond de tes abîmes, de tes clochers trompeurs, de tes églises vides. Je suis ton cœur blessé, le fruit de ta déprime. Je suis ton assassin, je suis ton déicide. Et je m'en vais ce soir, paisible et silencieux, au bras de la peur.
Hubert Félix Thiéphen sur la première, où nous sommes en compagnie de Pavlina, artiste peintre.
Моя спрыгнула железа, пичо мне даровала Мария Тереза.
Chers auditeurs, dans notre cycle de la mer Noire à la Baltique, nous atteignons aujourd'hui la quatrième des émissions consacrées aux provinces tchécoslovaques. J'insiste particulièrement sur cette région parce qu'elle représente en quelque sorte le cœur de l'Europe orientale. De par son entourage géographique, elle se trouve exposée à des influences des plus diverses qui lui ont valu un enrichissement musical exceptionnel. Dans les écoles déjà, les enfants s'initiaient au jeu de plusieurs instruments, la musique et le chant faisant partie intégrante de la vie quotidienne populaire. C'est grâce à leurs dons prononcés que la renommée musicale des Tchèques dépassait les frontières déjà bien avant Smetana et Dvorak par l'activité de Tchernohorsky, Kozelou, Benda et autres compositeurs. Plus tard, nous trouvons Fibich, Janáček, Suk, Novak et finalement le contemporain Bohuslav Martinů. Ils disposaient tous d'une même source d'inspiration, le folklore de leur patrie.
Pavlina, vous êtes née au carrefour du centre de l'Europe, justement, où c'est un peuple un peu d'artistes, de musiciens, mais aussi de peintres. Vous êtes née dans ce qui était à l'époque la Tchécoslovaquie. Vous, c'est plutôt des origines slovaques et allemandes. Dans quelle famille êtes-vous arrivée au monde et où?
Alors, je suis dans l'ancienne Tchécoslovaquie, comme vous le dites bien, d'un père slovaque et d'une mère allemande.
Sudète.
Sudètes, allemande de l'Est, effectivement. Mm-hmm. Donc là, wow, c'est déjà toute une histoire.
Et dans quelle ville? C'était près de Brno?
C'était à 2 heures de Brno, une toute petite ville. Rimajov, ça veut dire la ville des Romains. Et puis, à l'âge de 2 ans, mes parents ont décidé de tout quitter, puisque ma mère, étant allemande, elle avait le droit de
quitter le paradis communiste et oui, aller voilà. s'installer exact. Ailleurs.
Oui. Oui, voilà. Et curieusement, c'était ma mère. Ma mère n'était pas pressée de partir. Hein. C'était mon père qui insistait, qui voulait absolument quitter le communisme. Et ma mère, elle n'était pas vraiment dérangée par le communisme. Elle a dit, mais pourquoi? Tout va bien.
Que faisait-elle dans la vie et que faisait votre papa?
Alors, ma mère, elle était couturière de mode. Elle avait son atelier. Et mon père était ingénieur dans la construction.
Vous avez quitté très 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 tôt la Tchécoslovaquie. Est-ce que il vous reste quelque chose dans des souvenirs ou des odeurs ou des couleurs ou une grand-mère, je sais pas.
Oui, tout à fait. Je me souviens, j'ai encore des petits souvenirs des odeurs également. Je me rappelle encore les comme une ancienne ferme et des certaines maisons, des animaux et des structures. Oui, si, j'ai encore des souvenirs. Et de toute façon, nous sommes retournés rarement, mais de temps en temps. C'est grâce à cela que je comprends toujours le tchèque et le slovaque. Et donc c'est resté quelque chose qui était actif. Mais effectivement, j'ai reçu quand même une éducation dans le sud de l'Allemagne, près du lac de Constance, à partir de l'âge
de
2 ans.
Près de la Suisse aussi, oui.
Oui, j'étais juste à la frontière suisse-allemande. Donc Schaffhouse mm-hmm. était à 3-4 kilomètres. J'étais vraiment juste à la frontière.
Quelle petite fille étiez-vous? Petite, blonde, aux yeux bleus?
Oui.
Comment?
Timide.
Oui. Mm-hmm.
Plutôt timide. Je n'étais pas quelqu'un d'expressif. Ça, c'était plutôt ma sœur, qui a 5 ans plus que moi. Elle est très expressive comme ça. Donc, peut-être, j'avais pas l'impression d'avoir suffisamment de place pour m'exprimer aussi.
Vous étiez la plus jeune ou la plus âgée?
J'étais la plus jeune.
La cadette.
Ouais. Voilà, mm-hmm. exactement. Et après, j'avais donc toute la scolarité à Zingen, près du lac de Constance. J'étais au gymnase. Et il y avait une professeure d'art que j'aimais beaucoup, qui m'a motivée à ce que j'aimais bien dessiner. Et puis elle l'appréciait. Elle aimait bien mes dessins. Et j'avais la chance d'avoir de très bonnes notes. Et je suis sûre que c'était déjà un petit chemin qui était préparé quelque part.
Vous vous rappelez quand vous avez commencé à dessiner? Bon, tous les enfants dessinent et c'est souvent l'école qui les... par la suite, qui les démotive. Vous, c'était comment? Vous avez commencé assez jeune à avoir envie de dessiner?
Alors, oui, j'ai vu d'abord ma tante, qui est artiste peintre de profession en Slovaquie. J'ai d'abord vu elle dessiner et faire la peinture. Donc, j'étais déjà en admiration qu'on arrivait à avoir une certaine technique. C'était peut-être ma première influence. Et puis, au gymnase, la professeure d'art, elle aimait beaucoup mes dessins. Déjà, autant qu'adolescente, j'étais plutôt basée sur le corps humain et surtout le corps. J'avais envie de sublimer le corps, bien que je me suis jamais basée sur le corps autant que finalité en soi. Pour moi, le corps est le temple de l'âme, de notre intérieur. Donc, je ne m'arrête pas au corps, mais j'aime beaucoup le montrer autant que moyen qui reflète la vie intérieure.
Et vos parents vous admiraient déjà, petite, de savoir dessiner et de vous passionner pour l'art?
Heureusement, ils m'ont laissé dessiner et jouer avec les couleurs, mais ce n'était pas quelque chose... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de petites filles qui adorent dessiner et qui ont beaucoup de talent en cela. Donc, je ne sais pas si j'étais si exceptionnelle que ça. Pas forcément. Donc, non, ils étaient très neutres. Ils étaient très, très neutres.
Ils vous laissaient faire.
Oui, voilà, exactement. Ouais.
À quel moment, donc, vous avez étudié, vous avez eu le bac à 18 ans. C'était près du lac de Constance.
Oui. Oui.
En quel bac scientifique, artistique?
C'était Fachhochschulreife, je ne sais pas quel est l'équivalent. Ce n'est pas du tout le même système scolaire comme ici.
Enfin, vous pouviez aller plus loin. Vous avez fait
exactement.
Un bac qui vous permettait d'aller plus loin, d'étudier
voilà.
plus loin.
Exactement, j'aurais pu aller à l'université pour continuer tout ça. Mais j'avais plus envie de me perfectionner dans les langues parce que j'avais beaucoup d'anglais. jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je me suis dit, tiens, maintenant, j'ai peut-être 2-3 ans pour découvrir le monde. Donc, j'avais déjà en tête, tiens, à partir de 21 ans, je dois devenir sérieuse. Je sais pas.
Donc, vous vous êtes accordé un peu de temps, en fait. Vous n'êtes pas allée directement à l'université. Vous auriez étudié quoi, peut-être, à l'université? Littérature ou des choses comme ça?
À un moment donné, c'est la psychologie qui m'a beaucoup tentée, mais également les arts, le graphisme. Et puis, il y avait une école de graphisme qui m'a beaucoup interpellée, mais elle était trop loin. Et puis, c'était pas possible de louer un appartement à une distance de 40 kilomètres. Parce que mes parents, ils étaient en train de construire une maison, donc c'est un peu délicat. Et puis, comme je ne savais pas exactement quoi faire, donc je me suis dit, tiens, j'ai envie de toute façon de perfectionner les langues. Donc, c'est l'occasion de voyager un petit peu. Et le concept de fille au père, il existait déjà, hein.
Vous êtes partie comme fille au père.
Voilà, je suis partie comme fille au père. Et puis, j'avais reçu une place à Los Angeles, qui n'était pas encore confirmée, mais elle était disponible. Et puis, et à la place d'aller à LA, il y a un ami de ma sœur qui a dit « Ah, mais Pavlina, tu es en train de chercher quelque chose. Tu sais, il y a une voisine qui vient de revenir de Honolulu et ils sont en train de chercher une fille au père dans une famille qui est moitié suisse-allemande. » Alors là, je me suis dit « C'est pas possible, moitié suisse-allemande, moitié japonaise-américaine. »
Dans les 8 îles de l'archipel des Hawaï, on trouve 575 000 habitants, dont la bonne moitié dans la seule capitale d'Honolulu. 6 000 chambres d'hôtel, une ville dans la ville. Des bateaux qui amènent toutes les semaines de nouvelles caravanes avides de sable chaud, de brises alizées, d'exotisme. Alors, on a reconstruit l'exotisme. Toutes les femmes des Hawaï ont des armoires frigorifiques, des aspirateurs, la moitié conduisent leur voiture, et la langue commune à ces 20 races mêlées est l'anglais avec accent américain. Mais pour assurer le succès des opérations touristiques, on a ressuscité l'artisanat. Il y a des quartiers entiers où l'on tisse des poupées de raffia, où l'on peinturlure des noix de coco plus ou moins bien sculptées, et tous ceux qui ont un jardin et cultivent des fleurs, dont femmes et jeunes filles font les fameuses guirlandes, les leis, qu'on accroche au cou des visiteurs. Au moins une fois par semaine, en chaque ville ou village, des Polynésiens laissent tomber leur complet veston, saignent un pareo, font cuire le cochon sous un amas de feuillage, sonnent de la trompe et frappent les tambours pour annoncer un repas rituel. Des Polynésiennes troquent la jupe et le chemisier pour la ceinture de feuilles et une légère parure de soie made in Japan afin de danser et chanter pour les touristes qui s'invitent eux-mêmes à ces repas à 40 francs la séance.
Pavlina, vous êtes partie comme fille au père aux îles Hawaï, à Honolulu peut-être. C'est comme ça, comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire que la fête est présente, c'est un peu ça que vous avez trouvé là-bas?
Alors, ma toute première impression, la plus forte, était en arrivant avec l'avion, parce que j'avais 18 ans, c'était la toute première fois de prendre l'avion.
Sans vos parents?
J'étais toute seule, et puis j'avais le planning de la main, mais j'ai juste prié que j'arrive, parce qu'en plus, il y avait des stops à New York, à Los Angeles, où je me souviens, j'ai passé un moment terrible pendant toute la nuit, j'étais toute seule dans la salle d'attente, et je ne savais pas qu'il y avait autant d'heures
à attendre.
D'attendre. Et puis, j'étais tellement heureuse de voir les femmes de ménage de l'aéroport. Mon Dieu. Oui.
Et quand vous êtes arrivée à Honolulu, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez découvert là-bas? C'est quand même assez original de partir comme fille au père à Honolulu, je veux dire.
Oui, donc la première vue depuis l'avion sur l'île, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment le paradis. Le paradis existe encore. Ça, c'était ma toute première impression qui m'a marquée. Je revois, malgré toutes ces années, encore cette image très forte depuis l'avion. Et le sable, les palmiers, de voir le sable.
C'est vraiment comme ça, c'est vraiment comme ça.
C'est vraiment comme ça. Oui, c'est vraiment comme ça. Il faut que tout le monde y aille. C'est à voir. Et puis bon, Hawaï, il y a plusieurs îles. Donc, il y a Big Island. Moi, j'étais sur l'île Oahu, où se trouve Honolulu. J'étais sur la Windward Side, où se trouve Kailua, qui est spécialisée dans le surf. Et puis, et là-bas, j'avais l'occasion également d'être dans une école pour perfectionner l'anglais, parallèlement.
Mais dans cette ambiance, on a envie d'aller à l'école pour perfectionner quoi que ce soit.
Si, si, quand même, parce que j'ai quand même un petit côté disciplinaire.
Le côté sudette, le côté allemand.
Oui, enfin, les deux. Je sens en moi l'âme slave, avec la sensibilité artistique. Dans ma famille paternelle, il y a la musique et la peinture sont très présentes. Et du côté de ma mère, alors là, c'est beaucoup plus structuré. Ils aimaient beaucoup les voitures de collection. Et puis, c'était beaucoup plus basé sur le matériel. Donc, il y avait un contraste très, très fort dans lequel j'étais éduquée de la part de deux. Et puis, ma mère, puisqu'ils ont tout perdu dans la guerre, en fait, elle n'accordait aucune valeur à une richesse parce que elle avait
on
déjà
pouvait
vécu.
La perdre.
Oui, parce qu'elle avait vécu à l'âge de 7 ans, ils ont perdu toute la propriété. Ils avaient la plus grande propriété de la région là-bas. Et puis elle était élevée avec des bonnes et puis elle m'a dit mais de toute façon, j'ai déjà tout eu, qu'est-ce que ça peut faire si on perd tout.
Donc, et c'est pour ça peut-être aussi que vous aimez apprendre les langues. Vous aviez déjà la langue, l'allemand que vous parliez. Vous aviez aussi le slovaque probablement.
Ouais. Et j'ai entendu aussi l'accent suisse-allemand puisque j'étais juste à la frontière.
Exactement. Et ensuite l'anglais à Honolulu pendant une année. Donc déjà 4-5 langues que vous parliez à 20 ans.
Oui, 4.
4, bien.
Cinquième, j'ai toujours adoré apprendre l'italien. Peut-être je vais faire ça à 80 ans.
Oui,
ou avant.
Et puis l'anglais, et puis le français, à un certain moment.
Oui, voilà. Donc, au début, en arrivant à Hawaï, je me suis dit, tiens, c'est tellement beau ici, je vais rester pour toujours.
Toute ma vie. Oui.
Toute ma vie. Mais après une année, je me suis dit, tiens, il y a cette expression qui circule là-bas, a rock in the ocean.
Un rocher dans l'océan.
Un rocher dans l'océan.
Ouais. Un caillou dans l'océan.
Oui, parce que Oahu, c'est vraiment magnifique, c'est somptueux, c'est superbe, c'est paradisiaque. Mais elle fait à peu près 50 kilomètres de diamètre. Et puis, j'étais trop jeune aussi pour atterrir là-bas pour toujours. J'avais besoin de rencontrer plus de culture encore, de l'ancienne culture, des musées. Et j'ai senti, voilà, j'ai besoin d'aller à Paris.
Too long, you bleeding.
I saved the world today. J'ai sauvé le monde aujourd'hui. C'est Annie Lennox, Eurythmics, avec l'Orchestra Sinfonica Italiana. Et c'est sur la première où nous allons prendre des nouvelles de la route.
Infotrafic, RTS.
Sur l'autoroute Lausanne-Vevey, la circulation est toujours interdite aux poids lourds en raison de travaux entre Lausanne-Vennes et Chèbre. En direction de Vevey, une déviation est en place. Pavlina, on vient d'écouter Annie Lennox, c'est votre choix musical. Dans notre émission, on invite nos invités à proposer des morceaux. Pourquoi ce morceau? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce morceau de Annie Lennox?
En fait, c'est surtout Annie Lennox elle-même qui vous plaît. Oui, je l'adore. Sweet Dreams, évidemment, j'ai hésité aussi avec cette chanson-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Elle est très franche, directe, et en même temps, elle est habitée par une grande douceur. Et j'ai hésité entre une chanson plus dure, plus tough. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'amener un petit peu plus de douceur.
C'est une artiste pour vous?
Ah, c'est une grande artiste. C'est une immense artiste, Annie Lennox. Et j'espère qu'il y a encore d'autres qui seront de son calibre.
Comment vous définiriez en quelques mots? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se sent un peu artiste. Si on voulait donner une image de ce que c'est qu'un artiste, qu'est-ce qu'on dirait? Vous, qu'est-ce que vous diriez?
Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui cherche à se connecter à son intérieur, qui cherche à exprimer son intérieur, qui est prêt de le partager avec le public. Ce partage est très important parce que quelque part, ça crée une communication en moi partielle. Même si quelqu'un montre son travail tous les 5 ans, je trouve que c'est déjà OK. Moi, je sens le besoin d'exposer mes œuvres parce que j'ai besoin du public. Pour moi, c'est un échange entre le public et les œuvres. Et moi, c'est un triangle. Et ce feedback, de voir le regard des personnes, des visiteurs qui observent un tableau, ce qu'ils ressentent, ce qui les touche, pour moi, c'est très important. Et je suis très infiniment triste quand je vois les tableaux qui sont stockés à la cave pour attendre la prochaine exposition.
Vous aimeriez qu'ils partent tous?
Oui, j'aimerais qu'ils soient tout le temps visibles pour pouvoir parler aux personnes. Parce que pour moi, un tableau, c'est vraiment quelque chose de vivant. Même au début, quand je commence un tableau, d'accord, c'est moi qui donne peut-être le premier élan en faisant la méditation avant. Ça m'aide de me centrer. Donc, je sens l'envie ou le besoin de créer une composition ou un thème qui est soit basé sur une vision que j'avais avant ou sur quelque chose de beaucoup, beaucoup plus spontané, qui est peut-être plus proche de l'émotionnel. Mais par la suite, il y a un moment donné, c'est vraiment très, très mystérieux, à un moment donné, c'est le tableau qui me guide.
Toute ma vie, depuis mon adolescence, j'ai tâché d'offrir, premièrement à Paris, le mieux de mon délire paranoïaque. Parce que le délire espagnol, c'est surtout en France, qui est le pays par excellence de l'intelligence, le pays cartésien par excellence le plus intelligent du monde, qui est le plus apte précisément à apprécier et à déguster le délire mystique de l'Espagne.
Salvador Dali ne s'est livré à aucune excentricité et comme je lui exprimais mon étonnement, voici ce qu'il m'a répondu.
Je suis un grand névrosé et tout ce qui a un rapport avec le cérémonial névrotique a une très grande importance dans ma vie. J'adore les cérémonies. C'est-à-dire tout ce qui est cérémonie, liturgie, acte officiel, ça marque profondément dans mon structure.
On a tort de voir Salvador Dali comme n'étant pas sérieux.
Je suis plus que sérieux, je suis un être tragique.
J'adore ce son. Qui parle encore aujourd'hui comme ça? Avec cette créativité dans la façon de parler et de parler de soi d'une façon très artistique.
Ouais.
Ça fait partie, donc Salvador Dali, comme lui, vous êtes allé à Paris, non pas pour le délire mystique espagnol, mais pour le délire mystique tchéco-allemand, je vous taquine. Mais Salvador Dali fait partie des artistes qui vous ont inspiré, j'ai envie de dire.
Oui, alors effectivement, c'est une bonne remarque. Pendant mon adolescence, c'était Dali qui m'a beaucoup inspiré.
Bon,
oui.
Vous savez dessiner comme lui, hein. Il savait dessiner, il faut le laisser ça, ce qui n'est pas courant chez les artistes peintres, de moins en moins. Mais Qu'est-ce qui vous a plu chez lui? Parce qu'il a aussi un côté mystique, justement.
Oui, et il a aussi le côté un côté surréaliste, hein, que j'aimais beaucoup à l'époque. Bien que dans mon style, j'essaie moins de représenter des anecdotes ou de raconter des histoires. Donc, j'adore chez lui, par exemple, les femmes tiroirs, hein, tous ces tiroirs qu'on peut accéder grâce à ce corps féminin. Mais c'est pas moi. Donc, j'ai jamais essayé de faire comme quelqu'un d'autre, en fait. J'avais plutôt peur d'être influencée d'autres artistes parce que je me suis dit, si je m'inspire trop d'autres, je risque de me perdre.
Mmh. Alors, on va revenir à votre parcours. Vous êtes très jeune, vous avez quoi, 22 ans, quelque chose comme ça, et vous décidez de partir à Paris pour apprendre le français. Et c'est là que vous vivez votre grande rencontre avec l'art, en fait. Vous l'avez en vous, mais là, vous allez rencontrer un personnage qui va vous donner les moyens, vraiment, de cet artisanat aussi, qu'est la peinture.
Oui, c'est juste. J'étais donc à Paris déjà depuis une année et j'étais en train de les presque quitter pour apprendre l'espagnol par la suite parce que...
Donc il y avait français, espagnol, dans l'ordre.
Oui, anglais, français, espagnol.
Et italien, on l'a entendu un peu
voilà.
plus tard.
J'espère que j'adore l'italien. J'espère que ça va venir encore. Donc, j'étais déjà en train de me préparer pour quitter Paris et j'ai rencontré Gérard Di Maxo sur le pont Alexandre là près.
Donc c'est un artiste peintre d'origine algérienne, aussi italienne, espagnole, très connu en fait. Si on pianote son nom sur internet, on voit énormément de choses sur lui, peut-être un peu moins connu en tout cas en Suisse, mais qui est un homme qui a une importance. Enfin, c'était une rencontre amicale et aussi une rencontre d'artiste.
Exactement. Donc, c'était d'abord amical. Nous étions très proches. C'est devenu mon ami. Et puis, j'ai beaucoup aimé également son expression artistique.
Il était prof aussi, non?
Oui, il était prof des beaux-arts de formation. Il était pas mal plus âgé que moi. Et nous avons tout de suite senti beaucoup d'affinités. C'était vraiment très, très complémentaire. Et puis, pendant 5 ans, nous avons travaillé ensemble. Je suis devenue également...
Vous avez travaillé dans son atelier.
Voilà, exactement. Son atelier se trouvait dans notre appartement. Et puis, il avait beaucoup de succès. Il a toujours beaucoup de succès. Et sachant que j'aime beaucoup les dessins, il a dit, tiens, on va travailler ensemble. On va dessiner et peindre ensemble.
Mais voilà, justement, comment ça s'est passé pratiquement? Il était là, il dessinait, vous dessiniez votre toile.
Oui, donc lui, il préparait... Bon, moi, j'étais à mes débuts, hein. Donc lui, il préparait le projet. Et puis, bon, tout au début, la base était l'apprentissage du dessin que j'adorais personnellement. Donc ça allait très, très vite. Il était étonné à quelle vitesse...
Le dessin académique.
Le dessin académique, avec les facilités, me venait. Mais j'avais toujours cet amour pour l'expression physique. Et nous avons commencé à travailler ensemble, ça veut dire il a développé son projet. Et nous avons travaillé, quand c'était un grand tableau, nous avons travaillé ensemble.
Ah, des parties, comme chez les maîtres, comme Léonard de
voilà,
Vinci,
comme
dans les ateliers
exactement,
à la Renaissance.
Oui.
C'était c'est incroyable.
Comme à la Renaissance, c'était comme alors Rembrandt, il avait 50 élèves.
et donc sur la même toile, vous faisiez des parties et lui des parties et...
Oui, je faisais des parties, je préparais le dessin. Enfin, lui, il développait le projet. Moi, ensuite, j'ai travaillé le dessin pour que ça soit plus précis. Ensuite, il continue avec la peinture. Et petit à petit, avec les années, j'avais de plus en plus de facilité. Et il m'a dit, c'est très important aussi pour que tu trouves ton style. Et il avait la pédagogie et la finesse d'esprit d'apprendre comment on trouve son propre style.
Et comment?
Alors ça, c'est quelque chose à partager vraiment avec les personnes qui écoutent, pour tous ceux qui aimeraient s'inspirer. C'est très simple. Pendant une année ou deux années, n'importe le temps, toutes les images qui vous touchent, toutes les images qui vous plaisent, vous rassemblez toutes ces images dans une boîte, n'importe. Après une année ou quelques mois ou quelques années, n'importe, vous allez analyser chaque image selon sa couleur, selon son type d'expression. Est-ce que c'est abstrait, expressionniste, impressionniste, figuratif, académique, abstrait? Et en analysant toutes ces images que vous aimez, vous allez trouver un fil.
Un
fil d'expression qui vous reflète, parce que tout ce qui nous plaît est une partie de nous. Donc toutes les couleurs qui vous touchent, c'est déjà une partie de vous.
Vous vous rappelez le premier tableau que vous avez vendu et dans quelles circonstances, ou dessin, enfin la première chose où, qui était votre création et qui a plu et que vous avez pu vendre?
Ah oui, je me souviens très bien parce que c'était très émouvant. Je m'ai même rendue à la fin de l'exposition. C'était étonnant parce que j'avais 5 tableaux. Mes premiers 5 tableaux que j'ai exposés, ça c'était dans une sorte de club à Paris. C'était préparé par une association. Et là, il y avait 3 ventes sur les 5. Et j'étais très, très bouleversée. J'avais très, très mal au ventre. Ça, c'était au niveau de la vente. Et puis, il y avait aussi une autre expérience qui m'a marquée dans plusieurs sens. J'ai amené mes 3 tout premiers tableaux à la galerie Ra, où Géraldine Maxwell avait l'habitude d'exposer en exclusivité. Et puis, j'avais envie d'avoir un feedback du galeriste pour qu'il me donne quelques points de repère d'attitude de mon travail. Et je les ai posés donc par terre. Et puis, il y avait
les 3 dessins.
Oui. Trois peintures. Mm-hmm. C'était 3 peintures avec du dessin à l'intérieur. Ça fait partie de mon style. Et puis il y avait un monsieur de 50-60 ans qui était à l'intérieur de la galerie et en voyant ces 3 peintures, il a donc moi j'étais dans un autre coin déjà avec le galeriste. On a regardé un autre tableau. Donc les 3 tableaux étaient par terre comme ça, accessibles. Le monsieur est venu et ensuite il est allé voir le galeriste pour dire « Ce tableau-là, j'aime bien ce tableau, quel est son prix ?» Et puis le galeriste, il était un petit peu étonné, autant que moi. Et il a dit « Écoutez, je ne sais même pas si l'artiste veut le vendre. » Elle les a juste amenés comme ça et je vous la présente. Voilà, c'est Pavlina, artiste... Enfin non, je n'étais même pas encore artiste peintre. C'était mes premiers débuts. Moi, je n'aimais pas oser à l'époque de m'appeler artiste peintre. C'était venu plus tard, quand les gens m'ont appelé artiste peintre. Je me suis dit, si les autres m'appellent artiste peintre, je peux le dire. Mais je ne voulais pas le dire de mes propres grés. Et puis ce monsieur, quand il a vu que c'était moi la créatrice, oh, il est devenu blanc, vert. J'ai vu, ça l'a vraiment perturbé. Et il a dit, mais non, mais c'est pas possible, vous êtes trop jeune pour faire ça.
Vous aviez quel âge ?
C'est pas vous. J'avais 22-23 ans. J'avais 22-23 ans. Et puis bon, c'est vrai, bon, j'étais habillée en leggings, en short, t-shirt, peut-être même une couette, tu vois, quelque chose qui m'a pas vraiment vieilli. Et puis il était choqué et perturbé, il a dit non, j'y crois pas, c'est pas possible. Et puis finalement, il est parti en courant. Donc moi, j'étais triste et choquée par sa réaction parce que je trouvais ça quelque part injuste. Je dis mais c'est moi, pourquoi il me reconnaît pas puisque je le fais? Mais en même temps, maintenant, ça me fait rire. Hein.
C'est quelque chose qui vous a poursuivi un certain temps, ce fait d'avoir une apparence très jeune, d'être très jeune et d'avoir un style très affirmé et un peu classique presque. Je parle au niveau du dessin, du fait de maîtriser le dessin.
Oui, je dirais plutôt un style figuratif que classique,
mmh, oui. Hein,
mmh. Parce que le classicisme n'est pas vraiment intéressant pour moi. Je préfère figuratif avec l'amour de la présentation du corps.
Et du visage,
mais c'est pour moi un moyen pour refléter la vie intérieure et l'état d'âme du modèle, par exemple. Donc le corps, il ne me fascine pas uniquement en tant que physique, mais c'est ce qu'il exprime.
À quel moment on vous a plus trouvé trop jeune pour vos œuvres ?
Oui, alors effectivement, j'étais très heureuse d'avoir 40 ans, 35-40 ans. Et je me suis dit, mais quelle chance de ma profession, c'est un luxe de pouvoir s'appeler encore une jeune artiste peintre à 35-40 ans, où la carrière commence vraiment bien. Et oui, c'était pour moi un certain temps un problème, parce que j'avais 27 ans, et puis les gens me disaient, ah, mais tu as 22, 23. Maintenant, ça devient un avantage, on me donne un peu moins que ce que j'ai, donc voilà, la vie trouve toujours son équilibre.
Pavlina, artiste peintre, avec nous encore jusqu'à 15h. Sur la première.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine.
j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez...
Je veux Zaz sur la première où nous sommes encore en compagnie de l'artiste peintre Pavlina.
On a appris hier la mort d'Elisabeth Kübler-Ross à l'âge de 78 ans.
Un décès survenu mardi soir. Cette psychiatre zurichoise d'origine, mais établie aux États-Unis depuis une cinquantaine d'années, s'était fait connaître dans le monde entier dès les années 60 par ses travaux pionniers sur le vécu psychologique de l'agonie et l'accompagnement des mourants. Médecin-chef des soins palliatifs au CHUV de Lausanne, Claudia Mazzocato a livré sa réaction à Pierre Bracci.
C'est une femme épatante. Vraiment, c'est, enfin, l'annonce de son décès, s'il ne m'étonne pas, il me touche quand même beaucoup. C'est quelqu'un qui, je crois, a énormément apporté, non seulement aux personnes en fin de vie, mais aux familles et à nous, des soignants. Hein. C'est elle qui a écrit en quelque sorte le béaba, je dirais, de la relation à la personne confrontée à la mort. Et je crois qu'elle a ouvert des portes incroyables que d'autres ont ensuite poussé, exploré davantage. Mais je crois qu'elle nous a énormément apporté, et avec beaucoup de cran, parce qu'elle a eu une vie qui n'était pas facile. Hein. Et autant elle était portée au nu, autant elle était critiquée par la suite. Non, c'est vraiment une grande dame qui nous quitte, vraiment.
Voilà, annonce de la disparition d'Elisabeth Kübler-Ross, qui vous a beaucoup touché à un certain moment, Pavlina.
Oui, c'est un déclencheur.
Vous avez lu très jeune son premier livre, non?
Oui, c'était grâce à la mère d'un ami qui, elle allait dans ses séminaires, elle la connaissait personnellement. Et j'avais 16 ans quand j'ai reçu le livre « La mort est un nouveau soleil ».
Soleil, oui.
Et comme il y avait le contact personnel entre Nelly, donc la maman d'un ami, Elisabeth Kübler-Ross, j'avais tout un autre lien. Et j'étais très impressionnée par son livre parce qu'il met en question ce qu'on appelle la mort classique. Mmh. Et elle parle également de ses expériences de 30 années quand même. Enfin, maintenant, ça, dans l'ensemble, ça faisait à peu près 30 années de recherche, même avec des personnes aveugles et sourdes, qui étaient capables de voir d'un coup, en étant pendant une opération.
Et donc, ça, qu'est-ce qui vous a touché? Le fait qu'il existe une autre dimension qui traverse peut-être la fin de la vie?
Alors, c'était la première fois que j'avais un document. Enfin, elle est quand même doctoresse de profession. Hein. C'est une doctoresse suisse-allemande. Et c'est pas quelqu'un de névrosé.
Oui, vous voulez dire, ce qu'elle raconte, c'est pas juste des visions qu'elle
Exactement.
A.
Exactement. Elle faisait des vraies recherches scientifiques là-dessus. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me dis, mon Dieu, mais si c'est vrai ce qu'elle dit, à ce moment-là, la mort, elle a toute une autre, une nouvelle dimension. À ce moment-là, il y a pas vraiment une preuve, parce qu'on n'a jamais une preuve scientifique, mais cette approche, elle est très importante, et j'ai poursuivi de lire sur elle comment elle a fait ses examens scientifiques, et ça m'a beaucoup interpellée, parce qu'à ce moment-là, pour moi, ça changeait un peu la vision sur la vie.
Donc, ça a changé votre perspective, finalement. Donc, si la mort n'est pas... Parce que ça, on ne l'a pas dit, mais vous venez d'une famille, en fait, athée, où il n'y avait pas de croyances, de pratiques religieuses. C'était plutôt un esprit scientifique, un peu, on peut dire. Des gens qui n'étaient pas très croyants. Donc, vous avez découvert cette dimension, on va dire, de spiritualité par vos lectures, par vous-même.
Oui, tout à fait, oui. Oui, exactement. Donc, en lisant pour la première fois à l'âge de 16 ans son livre, je me suis dit, mais s'il y a vraiment quelque chose qui existe au-delà de la mort physique, s'il y a d'autres dimensions qui existent, à ce moment-là, la vie actuelle, présente dans notre corps actuel, a une autre signification également.
Mais justement, vous avez dit tout au long de cette heure que le corps vous plaît, que vous aimez dessiner le corps et le représenter comme un symbole d'autre chose. Donc ça, c'est là que est la racine de votre inspiration, enfin de votre attitude face au fait de l'image, de peindre.
Oui, parce que quelque part...
Peignez l'invisible, vous essayez de peindre ce qu'on voit, mais aussi ce qu'on ne voit pas.
Exactement, parce que la vie, nous sommes au quotidien entourés par les choses qu'on ne voit pas. Là, je parle tout simplement des ondes, le téléphone, le magnétisme, de l'électricité, tout ça. Donc là, je prends vraiment quelque chose de très basique comme exemple. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses qui existent autour de nous et on ne le voit pas directement. Donc sachant cela, on prend plus conscience qu'il y a plusieurs réalités qui existent. Et puis, j'aime beaucoup que même les scientifiques et des personnes qui se basent plus sur une spiritualité, ils se retrouvent parce que finalement, même les scientifiques disent « tout est énergie ». Quand on dit « tout est énergie », ça rejoint toute la démarche des personnes plus spirituelles. Tout est énergie, donc c'est très intéressant d'avoir accès à quelque chose de plus scientifique, comme par exemple Dr. Elisabeth Kubler-Ross, par rapport à ses recherches qu'elle présente et les expériences qu'elle partage aussi. Parce qu'on dit « mon Dieu, mais si elle a vécu ce qu'elle a vécu pendant les expériences, c'est juste hallucinant ».
Alors dans ce livre qui m'a aidé à préparer notre rencontre, c'est un album qui s'intitule Pavlina, où il y a énormément de reproductions d'images. Alors j'ai envie de faire vivre un tout petit peu ce livre pour les auditeurs. Il y a beaucoup de mélange de corps et d'architecture sacrée, hein, si je peux dire. Donc il y a comme des représentations de temples ou des bouts de temples d'architecture. Et le corps qui se marie, en fait, avec ces différentes formes. Ça dit ça, un peu?
Oui, c'est juste.
Ce sont des images vraiment inscrites dans une architecture.
Tout à fait. C'est un ami, d'ailleurs, qui m'a dit, mais en fait, Pavlina, quand tu peins les cathédrales, tu sais, c'est la première peau de protection. C'est la première protection de l'être humain. Au-delà du corps direct. Donc, c'est comme des couches successives qui nous entourent et ensuite qui deviennent de plus en plus transparentes jusqu'à ce qu'il y ait un accès à l'être.
Alors, je vais en choisir une avant de nous quitter. C'est l'homme oiseau. Vogelmensch.
Vogelmensch.
C'est richtig. Danke schön. C'est vraiment un peu comme une gargouille de cathédrale, mais en même temps, c'est un homme oiseau. Alors, je vous laisse décrire si vous l'avez fait, donc ça doit être facile.
Oui. C'est un tableau que j'aime beaucoup parce que d'une part, c'est enfin un homme qui est dessiné, comme il y a beaucoup de femmes qui sont présentes dans ma peinture. Et c'est quelqu'un qui a un petit côté très lutin, avec c'est un lien entre le monde physique, animal, végétal. On voit aussi
il a des ailes, vraiment.
Oui, il a des ailes. Il a des transparences entre les membres. Ah, by the way, ce tableau, il est exposé également à Geneva Art Space.
Voilà, ça nous permet donc de dire que vous êtes au musée tibétain, en tout cas de Gruyère, donc jusqu'au 19 octobre. Dimanche, c'est le finissage.
Oui, donc tout le monde est chaleureusement invité de venir entre 16h30 jusqu'à 18h. L'entrée est gratuite ce jour-là pour le musée.
Et le musée vaut vraiment le détour. Ouais. Geneva Art, donc au Port Franc à Genève, c'est jusqu'au 1er novembre.
Oui, jusqu'au 1er novembre inclus. Et nous, les artistes, moi et Jacques Walter, nous sommes là les samedis de 14 à 18 heures.
Et voilà, et à Paris, au Grand Palais, il y aura quelque chose entre le 25 et le 30 novembre.
Oui, dans le cadre du
de
salon,
cette année.
Ouais, salon comparaison.
Et on ne va pas oublier la conférence ce soir de Guy Corneau, votre ami psychanalyste qu'on connaît, qui a écrit « Revivre » entre autres. Le thème, c'est « Le meilleur de soi », c'est à Sion, à 20h, ce soir. Et l'entrée est gratuite, on a tout dit.
Oui, je crois.
Merci Pavlina, merci d'être
beaucoup.
Passée nous voir.
Merci.
Il y avait Max Bott en régie cet après-midi. François Piton a choisi les musiques. Monique Cortési est notre assistante de production. Juste après les infos, vous êtes accueillis par Madeleine Caboche dans Détour. Rendez-vous, il me semble, avec un sculpteur autodidacte en France. Il est 15h sur la première.